d'Espagne, Andreas put acquérir cette petite maison de la rue Saint-Denis, où il installa son apothicairie, à quelques pas seulement de l'église où il avait été trouvé. C'est ainsi que l'enfant abandonné, défiant la Providence, ou obéissant peut-être à ses arcanes, devint l'un des plus illustres commerçants du quartier, dont à présent, nous devons également dire quelques mots. La rue Saint-Denis, qu'on appelait aussi cérémonieusement Grand Chaussée de Monseigneur Saint-Denis, et qui s'étendait vers le nord jusqu'à la porte homonyme, était une ancienne voie romaine, et probablement l'une des plus vieilles routes de la capitale. Si, comme nous l'avons déjà dit, elle était réputée pour être le siège des apothicaires, des épiciers et des celliers, elle était aussi célèbre pour accueillir de nombreuses fillettes, ou femmes de légère vie. Principalement à la hauteur du quartier de Bourg-l'Abbé qu'occupait justement Andreas. Mais cela ne l'avait jamais dérangé. Et il entretenait même avec elle des rapports courtois, offrant souvent fois, aux moins chanceuses, tel remède à base de sulfate de mercure quand elles avaient contracté quelque mal curial auprès d'un client à l'hygiène douteuse. Curieusement, c'était aussi l'une des rues de Paris où avait été érigé le plus grand nombre d'églises, telles Sainte Opportune, Saint Jacques de la Boucherie ou Saint Julien des Ménestrels. Tous les 100 pas, entre les demeures étroites et au milieu des enseignes bigarrées des commerçants, on ne pouvait échapper à quelque édifice religieux, fût-il chapelle ou hôpital. Avec autant de prêtres et de catins à la ronde, on pouvait dire qu'ici se côtoyaient donc le corps et l'esprit. Mais bien malin celui qui saurait affirmer lesquels cultivaient l'un et lesquels cultivaient l'autre. Quant à la maison d'Andreas, en colombage, elle n'était ni la plus belle ni la plus grande du voisinage. Il faut comprendre qu'avec l'essor que connaissait alors la capitale, commerçants et artisans pouvaient se permettre d'occuper des demeures de plus en plus hautes, où ils logeaient sans peine apprentis, valets, compagnons et serviteurs. Ainsi se développait la grande bourgeoisie parisienne. Celle des travailleurs qui faisaient fortune, fussent-ils drapiers, pelletiers, merciers, importateurs ou exportateurs de textiles, souvent propriétaires d'immeubles et de biens ruraux. La maison de l'apothicaire était somme toute modeste. Elle disposait au rez-de-chaussée de l'officine, grande pièce où étaient disposées les drogues dans des fioles, des pots, des vases en verre de Murano, et qui donnait directement sur la rue par l'ouvroir, afin que chacun pût observer celle-ci. Derrière, une salle de taille identique, privée, où l'on pouvait recevoir, manger et se réchauffer devant une large cheminée. Y était disposé un dressoir empli de vaisselle d'étain, des guerres et de coupes, une table à tréteaux entourée de bancs, et le sol, comme dans l'ouvroir, y était joliment carrelé. Dans la partie arrière, enfin, se nichaient la cuisine et le laboratoire, où l'apothicaire conservait précieusement assez d'ingrédients pour confectionner la plupart des recettes de l'antidotaire Nicolas et de celui de Messuet sur une paillasse en marbre, et où s'entassait autour de l'alambic tout un tas d'ustensiles nécessaires à la fabrication des remèdes. Bassines de cuivre simple ou étamée, chaudières, poêles et poêlons, marmites coquemards, écuelles, pots, cucurbites de verre, piluliers, poudriers et bouteilles de verre, mortiers de bronze, de cuivre, d'étain, de plomb ou de verre, avec leurs pilons de la même matière, presse, pincettes, entonnoirs, spatules, râpes, cuillères, écumoirs, étamines, tamis, mesures, poids et balances, couteaux et ciseaux, et d'autres encore qui peut-être échappent à notre mémoire. Le sol pavé du laboratoire et de la cuisine était judicieusement incliné pour que l'eau s'écoulât vers la cour, dans laquelle Andreas partageait avec les propriétaires des deux maisons voisines des aisances et un puits, dont l'eau n'était pas bonne à boire mais pouvait servir au nettoyage. Ainsi, chaque matin, Lambert, le valet, était contraint de quitter l'apothicairerie pour se rendre à la fontaine que Philippe Auguste avait fait construire aux Halles, et y chercher, comme tous les habitants du quartier, les rations d'eau potable de la journée. À l'étage se trouvaient les deux chambres. Et à mi-étage... Eh bien, à mi-étage, justement, se trouvait ce qui provoqua ce matin-là le trouble de l'apothicaire. Chapitre 4. C'était une petite porte en bois aux sculptures effacées par le temps, nichée dans une alcôve et qui nécessitait que l'on se courbât un peu pour la franchir, à l'image de ces passages dérobés que l'on voit parfois dans